Bonjour. Il y a des fois, on sait pas trop quoi prendre pour prêcher, en fait. On a des versets des fois qui nous viennent, on dit oh non, ça c'est dur à dire, Seigneur, je peux pas dire ça aux gens. Et là, j'ai un verset qui est super bien ce matin. Vous allez voir. Un verset qui est facile. Je vous lis juste là comme ça, après on tournera dans la Bible, vous verrez. 2 Corinthiens 3, verset 17, ça nous dit, Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Et il dit, c'est génial comme verset, parce qu'on peut prêcher, on peut faire ce qu'on veut quand on est chrétien. On peut faire un tas de trucs, on écoute ce qu'on veut, et les gens disent, Ah, toi, t'es chrétien, tu peux pas écouter telle musique, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et ce verset, il dit qu'on fait ce qu'on veut, on est libre. N'est-ce pas? Non? C'est bien, dès le départ, il y a des gens qui me regardent. Qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Non, je vous raconte des bêtises. Surtout, retenez pas que le début, retenez la fin, sinon ça sera raté. Ce qui est important dans plein de cas, hein, là je le tourne comme ça, c'est très visible, mais c'est grossier, on va dire. Mais c'est de voir l'ensemble du passage qui est concerné. Et on peut prendre des versets comme ça et dire, voilà, là où l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Hop, je fais ce que je veux dans la vie, je suis libre, personne ne doit rien me dire. C'est un peu facile. Si on regarde le contexte de ce verset-là, et c'est là où vous allez pouvoir ouvrir vos Bibles, dans 2 Corinthiens 3, l'idée n'est pas du tout celle-là. Et du coup, ce sera beaucoup moins rigolo à prêcher. Ça, on choisit pas. Donc 2 Corinthiens, chapitre 3. Et on va lire tout le chapitre, soyons fous. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alors, il y a quelque chose qu'on voit directement quand on lit ce chapitre-là, hein, c'est que toute cette idée de liberté, elle est directement liée à l'histoire de Moïse. Il y a plein de références à Moïse là-dedans. Il y a l'idée de rapidement d'écrire la loi dans des tables de pierre ou de l'écrire dans le cœur. Il y a toujours le parallèle, hein, entre ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. On a la question du voile, et c'est celle-là qui est intéressante en fait, je pense. Quand on lit ce passage, la référence à la liberté, c'est la référence à l'absence de voile en fait. Et je pense que c'est ça qui est important dans ce passage-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Et pour comprendre ça, bah, il ne faut pas se contenter de lire un seul chapitre, il faut relire encore ceux qui parlent de ça dans l'Ancien Testament, en fait. Donc je vous emmène, on ne va pas relire des chapitres complets, mais juste dans Exode 34, comme ça on aura le texte de départ de ce que dit Paul ici. Ça, c'est une règle quand on étudie la Bible, hein, c'est d'étudier la Bible grâce à la Bible, d'utiliser d'autres versets, de circuler comme ça. Donc, Exode, chapitre 34. Voilà. Donc les versets 18 à 26 quelque chose, c'est Dieu qui donne des commandements à Moïse. C'est un rappel du des commandements ici. Et à partir du verset 28, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. En fait, à 2 reprises, il y a cette fois-ci-là et une fois avant, on ne va pas forcément tout lire, mais il y a un épisode aussi où le peuple arrive au mont Sinaï et Dieu dit à Moïse, voilà, maintenant tu mets des barrières tout autour, tout le monde se sanctifie, je vais parler au peuple. Ce qui est décrit ressemble presque à un volcan. On a l'impression qu'il y a de la fumée, il y a des flammes, il y a la voix de Dieu qui vient. Et en fait, la réaction du peuple à ça, c'est « Écoute, Moïse, toi, va voir Dieu, parle avec lui, parce que nous, on peut pas... En fait, il nous fait peur, quoi. » Et je crois que les deux moments, en fait, ils disent la même chose. C'est que le peuple, il ne supportait pas la présence de Dieu. Alors après, c'est facile à dire. Hein. Nous, si on se retrouve au pied d'un volcan qui est en train de péter ou quelque chose qui ressemble à ça... On ferait pas les malins non plus. Si on avait quelqu'un pour dire, tiens, toi, va là-bas à notre place et puis tu nous transmets les infos, ça pourrait nous arranger, limite. Mais il y a quelque chose qui était terrible, c'est que il recevait les ordres de Dieu, mais d'une manière indirecte. Ça, il pouvait à la rigueur le supporter. Les tables de loi, il pouvait le supporter, à peu près. On voit par la suite que à peu près moyennement, en fait. Hein. Mais voilà, la présence directe de Dieu, juste l'effet de la gloire de Dieu sur le visage de Moïse, ça, il ne pouvait pas. Il le craignait. Et c'est ce qu'il dit ici, hein, il craignait de s'approcher de lui. Bon, après, là aussi, hein, si on remet les choses dans un contexte humain, si on a quelqu'un ici qui a le visage qui commence à briller, ça ne va pas nous rassurer beaucoup. D'accord ? Donc, il y a un fond d'humain qui est normal de voir quelque chose qui est anormal, en fait. Mais ça, c'était la traduction de la gloire de Dieu. Et le fait de ne pas pouvoir entendre la voix de Dieu non plus sur le mont Sinaï, c'était quelque chose dans le cœur du peuple qui était dur, quoi, en fait, et qui ne pouvait pas supporter la présence de Dieu. Quand il est fait mention de ce voile-là, si on repart dans 2 Corinthiens 3, parce que c'était ça notre passage à la base, ça parle de l'aveuglement d'Israël. C'est pas juste moi qui vous dis... Voilà, il pouvait pas supporter Dieu, c'est que il pouvait absolument pas voir Dieu. C'était au verset 7, 2 Corinthiens 3, verset 7. Les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien qu'elle était passagère. Et on nous le répète, je sais plus où. Nous ne faisons pas comme Moïse au verset 13, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ils sont devenus durs d'entendement. Donc la notion de voile, c'est celle-là. J'étais pas là mardi, mais j'ai un indique qui me disait qu'on parlait aussi du voile du temple mardi. C'est la même idée, en fait. Hein. Il y a quelque chose où il n'y a que le grand souverain sacrificateur qui pouvait aller une fois par an traverser le voile avec une petite corde à son pied, si je me souviens bien, comme ça, s'il tombait, bah, personne n'était obligé d'y aller, on le tirait, on le récupérait. Parce que les gens ne pouvaient pas supporter la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas y aller, en fait, c'était trop saint pour eux, et c'était juste pas possible. Donc, on ne peut pas dire dans un sens que c'est la faute du peuple d'Israël, mais ça traduit juste l'état de notre cœur. L'état du cœur d'Israël, le nôtre, il est pareil, hein, faut pas se faire des idées qu'on est mieux qu'eux. Mais on peut pas, On ne peut pas voir Dieu nous-mêmes, en fait. Ce n'est pas possible. Dans 2 Corinthiens 4, le chapitre d'après, en fait, hein, de celui qu'on a lu, au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Alors la fin de la phrase, elle est compliquée, hein, c'est du Paul, ça. Mais voilà, l'idée, c'est que l'évangile est voilé pour les gens. Il est voilé parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas l'évangile, qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Il y a quelque chose pour nous, là, de... Si je reprends mon petit verset du départ, hein, que j'avais sorti totalement du contexte, il disait que là où est le Seigneur, là est la liberté. Et je crois que cette liberté dont il est fait mention ici, c'est la liberté simplement de voir Dieu, d'y accéder. Et quand on enlève le voile, que ce soit celui du temple, que ce soit celui de Moïse, ce qu'on voit, c'est la gloire de Dieu. Et c'est l'idée la plus importante, je pense, dans ce verset-là. On a chanté tout à l'heure « Nous t'adorons, Père, dans ton temple ». Et quand on reprend les paroles, ça suit vraiment aussi ce fil-là, en fait, hein, de pouvoir aller dans le temple de Dieu, de l'adorer directement et que tout est ouvert, en fait. Il n'y a rien qui nous sépare de Dieu. Un dernier passage sur ça, en fait, c'est dans Ésaïe 25. Au verset 6, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux et clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Le verset qui m'intéressait, c'était le verset 7. Hein. J'aime bien lire tout autour à chaque fois, mais il faut des fois revenir juste à ce qui était utile. Il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. C'est une notion finalement qu'on retrouve du début à la fin de la Bible. On a cette histoire du voile avec Moïse, on l'a encore dans le temple et on le voit partout. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas voir naturellement Dieu. Alors qu'est-ce que ça change pour nous? On pourrait dire dans un sens pour nous chrétiens, pas grand-chose, peut-être, directement, mais ceux qui ne le connaissent pas, notre première prière, ça doit être « Seigneur, enlève ce voile. Donne-leur la possibilité juste de te voir. » Et le reste, ça viendra tout seul, en fait. Mais il faut que tu leur permettes de te voir, de te connaître. Et après, il changera les cœurs. Après, il fera les choses. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, et quand j'ai rencontré le Seigneur, le fait de le voir, le fait de le connaître tel qu'il est, c'est ça qui nous change, en fait. C'est pas de lire des versets, de prendre d'autres bouquins, d'écouter je sais pas quoi, même de m'écouter moi, hein, c'est pas ça qui va vous changer, mais c'est de juste d'aller auprès de lui, de le voir, de l'écouter, et c'est ça qui nous transforme. Et Moïse, c'est ce qu'il a fait, hein, pendant 40 jours, 40 nuits, il était auprès de Dieu, il recevait la loi, et quand il est revenu, il était brillant, comme une luciole. Voilà, je pense que c'était l'idée importante. Alors, on pourrait se dire, vous allez me dire, oh bon, bah, c'est bien, il m'a donné une méthode de prière, peut-être. Parce que finalement, nous, si on le connaît, on se dit, bah ouais, bon, c'est bien, moi, c'est ce qu'il a fait pour ma vie, voilà quoi, ça prédit qu'elle ne m'intéresse pas, Michael. Mais il faut prier pour les autres, que Dieu, il enlève ce voile. On va aborder un deuxième point, partez pas tout de suite, qui nous concerne, nous aussi, en fait. Ce passage de 2 Corinthiens 3, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il parle de Moïse, beaucoup. Et Moïse, c'est le symbole de quoi dans la Bible? De Jésus, ouais. De la loi, ouais, de la loi. Quand on entend les pharisiens parler de Moïse, c'est la loi de Moïse, c'est voilà, la loi. Et ouais, c'est une image de Jésus, mais il y a meilleur comme image. Il y a meilleur comme image. C'est sûr que quand on parle Moïse, c'est la loi. Et je pense que la loi, c'est un voile pour beaucoup. Et quand on dit dans 2 Corinthiens 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Je pense que l'un des outils que le malin utilise pour mettre un voile sur les gens qu'ils ne connaissent pas, mais aussi sur nous, en fait. Hein. C'est presque encore plus facile avec nous, les chrétiens. C'est de donner une idée de loi, de légalisme, d'habitude, de rite. Voilà. quelque chose qui finalement est rassurant pour nous, parce qu'il suffit de faire ça et ça marche bien avec le Seigneur en fait. Et le « il suffit de faire ça et ça marche bien avec le Seigneur », c'est déjà une loi qu'on se met nous-mêmes, qui n'a rien à voir avec, avec la Bible en fait. Hein. Et le malin, il utilise ça. Alors, c'est tout l'objet de l'épître aux Galates. Dans la Bible, si vous le lisez, les Galates étaient devenus complètement légalistes. Il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Et on perdait bah, justement toute cette liberté de l'évangile en fait. Pas de faire n'importe quoi, mais de s'approcher de Dieu et d'avoir une loi qui est différente par la forme en fait. On en a déjà parlé souvent dans l'église ici, mais le Jésus, il n'est pas venu supprimer la loi tout simplement. Il est venu enlever la forme de la loi qui était dure. Hein. Il y a un endroit où ça dit que c'était un joug, pour en faire quelque chose qu'on a dans nos cœurs directement, qui s'exprime naturellement et qui fait qu'on n'a pas besoin de dire « il faut que je fasse ça ». C'est le Seigneur m'a mis dans le cœur de le faire et je le fais naturellement sans y penser. Ça devrait être ça. Quand on est dans 2 Corinthiens 3, au verset 6, ça dit « Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc, il y a un point intéressant, c'est que c'est lui qui nous rend capables, encore une fois. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le voile, quand on parle du voile, il n'est jamais ôté par les hommes, en fait. Hein. À part Moïse qui, lui, l'enlevait lui-même. Mais si on pense à celui du temple, si on pense à l'action qui est faite dans les cœurs, c'est toujours Dieu qui l'enlève. Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. On ne peut pas aller rendre vivant quelqu'un qui n'a pas la vue. Rendre... non. Voyant, pardon, ouais. Il y a un lien entre voir et vivre hein, dans, notre, dans l'évangile, mais... voilà, donc il faut toujours revenir à Dieu parce que finalement, c'est lui qui nous rend capable de faire. Alors, est-ce que la loi est mauvaise? Alors, je ne vais pas vous refaire aussi tout Romain, on pourrait, mais il y a un petit verset qui dit en fait, dans Romains 7, « Le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. » Il est dans la Bible que la loi en soi n'était pas mauvaise, mais qu'il y a le péché qui s'est manifesté dans le cœur de l'homme grâce à la loi d'une certaine manière. Et je pense que le but de la loi, c'était ça aussi, en fait. Hein. C'était de nous mettre des règles et de voir qu'en fait, ça n'allait pas à l'homme. On ne pouvait pas juste lui dire, tiens, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et hop, l'homme, il est heureux. Il y a quelque chose qui ne colle pas, et il a fallu se rendre compte, bah, avec toute l'histoire d'Israël, on s'en rend compte dans notre vie aussi, hein, quand on a des, on se met des règles comme ça, c'est pas ça qui nous rend heureux en soi. Donc c'est pas la loi en soi qui était mauvaise, mais la manière dont elle était mise, elle pouvait pas être mise directement en fait cette loi, elle pouvait pas être donnée direct, enfin d'une autre manière, je veux dire. Dieu, il avait un peuple qui attendait quelque chose sous ce format-là très probablement, et on a du mal à imaginer si Jésus y était venu, je sais pas 2-3 000 ans avant, qui était venu du temps de Moïse, et puis comment il aurait fait les choses, parce qu'il s'attendait pas du tout à ça. Et il fallait qu'il y ait une période de transition avec la loi qui montre qu'on était incapable de suivre la loi, et après amener Jésus qui dit voilà, la loi je vais l'écrire dans vos cœurs. C'est plus sur les tables de pierre, c'est je le mets dans votre cœur et comme ça vous allez voir ça va marcher. Alors c'est facile avec les chrétiens de donner des lois comme ça, hein, parce qu'il suffit de prendre quelques versets bien placés dans la Bible, et on va dire tu vois, la Bible te dit que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et voilà, hop. Donc ça, je pense qu'on peut. On peut avoir beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce travers-là, comme c'était pour les Galates, mais c'est juste un exemple dans la Bible, il y en a plein en vrai, de devenir légaliste. Et ça, c'est un grand danger dans notre vie, je pense, de commencer à glisser d'une communion avec Dieu, comme Moïse, de le voir directement, de parler avec lui, et glisser tout doucement vers des choses, je dois faire ceci, des rites, des habitudes, et finalement, on perd la vie du Seigneur quand on fait ça. Mais chez les gens qui ne sont pas chrétiens, il y a la même chose, il y a toujours une forme de rites, de quelque chose, d'habitude, de quelque chose qui nous rassure en fait. Hein. Je crois que l'homme, il a besoin d'être dans des choses habituelles. Alors il y a des grands voyageurs, il y a des gens qui changent tout le temps de vie. Je pense que même eux, ils ont besoin d'un certain cadre, quelque chose qui reste pareil et qui fait que ça fait une forme de stabilité. On peut pas tout changer dans notre vie tout le temps, sinon quelque chose qui va pas. Et l'homme a besoin d'un cadre quelque part. Et alors. Il y a plein de manières de mettre des cadres. Hein. Si les gens qui. Je touche du bois, hein, ou je touche du singe, ou. Il y en a plein de trucs comme ça. Hein. C'est de la superstition, ça nous fait rigoler, mais finalement, c'est quoi derrière? C'est une forme de loi. On se dit, moi, je fais ci. Voilà. Si je passe pas sous l'échelle, si je croise pas un chat noir, si je fais pas ça, normalement, tout va bien. On en rigole, nous, parce que ça nous paraît délirant, mais il y a des gens qui le font quand même. Alors, c'est rarement totalement ouvert quand même. Quelqu'un qui assume totalement sa superstition, on n'en croise pas beaucoup, mais c'est toujours par-ci, par-là en fait. Hein. Dans la vie des gens, il y a des petits trucs comme ça, et si on essaye de gratter un peu, dire tiens, pourquoi tu fais ça? Oh non, mais c'est une expression quoi. Mais 2 minutes après, elle peut vous le refaire. Hein. Il y a une expression, mais il y a un fond de quelque chose qui fait que, bon, je vais peut-être le faire quand même, on ne sait jamais. Hein. Ça peut être la science aussi. Hein, moi, ma loi, c'est la science. Parce que la science, si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Et si la science, elle dit pas ça, si elle démontre que c'est faux, alors c'est faux. C'est super dangereux. La science, elle montre pas tout. Elle démontre pas tout. Elle ne peut pas tout démontrer, d'ailleurs. Et c'est une forme de légalisme qu'on s'impose aussi, si on commence à croire en la science. Alors, je dis ça en sachant que je suis scientifique, hein, dans mon cœur. Mais il y a un minimum quand même. Vous pouvez pas juste livrer toute votre vie à la science. Dire, voilà, toute ma vie, c'est expliqué par la science. On expliquera peut-être de plus en plus de choses, hein, par l'avenir. On comprend un peu dans la chimie du cerveau, il y a des trucs super complexes et des fois on se dit on a vu hier avec les jeunes, hein, l'idée du souvenir, et il y a des notions de chimie, d'électricité, d'un tas de choses dans notre cerveau. Il y a des choses qui pourront s'expliquer par la science plus tard et qu'on ne peut pas encore maintenant. Mais le pourquoi des choses, souvent le pourquoi des choses, il est difficile parce que ce n'est pas du champ de la science. Quand on parle du passé aussi, on n'est plus dans une science puisqu'on ne peut plus le reprouver exactement. On n'a plus les mêmes conditions. Il y a un tas de choses que la science ne peut pas aborder. Bon, je ne vais pas partir dans un délire sur ça ce matin. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de manières de se donner des règles. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui vous souffle une règle, en fait. Et je pense que soit le quelqu'un... Enfin, le quelqu'un, c'est tout le temps le même. C'est le diable. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 4, on l'a lu tout à l'heure, hein, dont le Dieu ce siècle a aveuglé l'intelligence. Je pense que c'est systématiquement lui. Si vous mettez Dieu m'a dit ceci de faire cela et pour être heureux, Allah a dit ceci, la science a dit cela, la superstition dit ceci, l'auteur à la fin c'est le même en fait, qui vous glisse des règles en disant regarde, fais ça et tu seras heureux. Alors, après il y en a, ils sont plus souples avec quelque chose qui aura un aspect religieux, c'est mieux. Il y en a que c'est plus scientifique. Enfin, il y a plein de manières de glisser des règles. Mais si on commence à glisser des règles quelque part, on supprime l'esprit qui est vivant et qui est libre. Et il faut vraiment se garder nous-mêmes. Là, voilà, tout à l'heure, vous pouvez vous dire ça ne me concerne pas. Je pense que la question légaliste, elle nous concerne tous. On est tous prompts à tomber là-dedans et à glisser, et puis à finalement ne plus connaître le Seigneur, en fait. C'est ça la question. Hein. Alors, toujours ce paragraphe de 2 Corinthiens 3, il fait référence à l'histoire de Moïse. Alors du coup, j'ai continué à tourner un peu autour de l'histoire de Moïse. Et dans Exode 8, on lit « Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. » Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous le dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. Il y a quelque chose qui était important, c'est qu'en Égypte, le peuple ne pouvait pas adorer Dieu. Et si vous prenez, alors ça c'était la version second, les versions Darby, Martin, elles sont plusieurs à traduire un peu différemment et je trouve que le sens il est un peu différent quand on traduit comme ça. Il n'est pas convenable de faire ainsi, répond Moïse au Pharaon, car nous sacrifierions à l'Éternel notre Dieu, l'abomination des Égyptiens. Et on voit bien que ce qui était en abomination aux Égyptiens, c'était pas juste sacrifier un mouton, sacrifier une vache, c'était sacrifier à un autre Dieu que le leur, sacrifier à l'Éternel. Et le culte à l'Éternel, les Égyptiens ne pouvaient pas le supporter. Et le peuple en Égypte ne pouvait pas adorer l'Éternel. Et si on relie ça à notre histoire ici, on se dit qu'il a fallu qu'ils sortent d'Égypte, que Dieu y fasse une œuvre, une délivrance, pour après pouvoir s'exprimer pleinement dans l'adoration et après pouvoir connaître Dieu. Et malheureusement, au lieu de rencontrer Dieu sur ce mont Sinaï, ils ont préféré demander à Moïse de se voiler, d'aller lui discuter avec Dieu et de... Bon, on a l'étape de la loi, ça nous suffit. Donc, il y a un raté quelque part, hein, dans leur histoire qu'on aurait eu de la même manière pour nous. Il ne faut pas se faire d'idées. Mais je crois que c'est une idée importante qui est liée à ce chapitre 3 de 2 Corinthiens, là, que la liberté qu'on a, c'est celle de s'approcher de Dieu et c'est celle d'adorer Dieu simplement. Et tant qu'on a ce voile-là, il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. Comme dans le temple. On peut pas, si on ne va pas dans le cœur du temple, juste devant Dieu, on ne peut pas l'adorer correctement. Il reste un voile entre les deux, il reste une distance en fait. Alors j'ai pas de. Voilà, il y a aussi un. C'est légèrement périphérique, mais. Il y a une idée aussi, c'est que les Égyptiens supportaient pas les Hébreux au point où ils ne pouvaient pas manger avec eux. Si vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, quand il reçoit ses frères, il mange à part, ses frères à part, et les Égyptiens de l'autre. Ils ne pouvaient pas manger ensemble, et là aussi on a le terme, c'était une abomination pour les Égyptiens. Quand Joseph il fait venir son père de Palestine, il le fait revenir en Égypte pour dire, viens, ici on a à manger, et il dit, tu diras à Pharaon qu'on est berger, parce qu'ils ne savent pas voir les bergers. Ils vont vous donner le pays là-bas à côté de Goshen et vous pourrez avoir vos troupeaux là tranquillement. Il y a quelque chose vraiment où il y avait une incompatibilité complète entre le peuple d'Israël et l'Égypte. Les Égyptiens ne pouvaient pas supporter tout ce qui était lié à l'Éternel et au peuple d'Israël. Alors ça, c'était notre chant, nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. L'idée qui gravite toujours autour de notre histoire de voile, d'adoration, de connaître le Seigneur, c'est celle qui est dans Jean 4 et qu'on a chantée au travers du chant tout à l'heure. Jean 4 au verset 19, vous le connaissez tous, c'est la femme samaritaine hein, qui vient s'adresser à Jésus. Et Jean 4, verset 19. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. On en revient à cette histoire de voile, hein, que c'est pas à Jérusalem, c'est pas à Hasbrouck, c'est pas je sais pas où qu'il faut adorer Dieu, c'est peu importe le lieu en fait. Le plus important, c'est pas là où j'adore Dieu, c'est que au moment où je l'adore, je suis devant lui. Je suis en train de le regarder, je suis en train d'être en communion avec lui. Et c'est ça qui fait la vraie adoration. Et il y a cette idée du coup, comme ce petit verset que je vous ai utilisé au début, de liberté en fait. On n'est pas obligé d'être à un endroit, on est libre d'adorer Dieu où on veut. Si vous avez envie d'adorer Dieu au fond du jardin là-bas, vous pouvez le faire, il n'y a rien qui vous en empêche. Et certainement pas Dieu, en fait. Le Éphésiens 3, verset 12 résume, je pense, très bien ce que je vous ai dit. Si j'avais eu qu'une minute, j'aurais lu celui-là. Donc il y a un verset avant qui dit Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et cette liberté dont on parlait au tout début, de Corinthiens 3, verset 17, c'est celle-là en fait. C'est la liberté de s'approcher de Dieu, sans qu'il y ait un voile, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui nous empêche de le voir et de l'adorer. Alors avant de m'arrêter là, je veux juste vous encourager à fouiller dans la Bible. Je peux pas, c'est pas le but, ce serait pas rigolo pour vous, juste de prendre tous les versets où il y a liberté. C'est facile, hein, ça. On prend tous les versets, hop, on fait une prédique et ça fait un message. Mais je reprends juste deux, trois versets qui sont vraiment intéressants. Et je vous encourage à régulièrement éplucher la Bible comme ça. Vous prenez un thème et vous cherchez. J'avais une vidéo hier à montrer aux jeunes sur les souvenirs et je ne vais quand même pas leur servir juste une vidéo comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible du souvenir? Quand c'est comme ça, ben, on prend la concordance et puis on regarde un petit peu et. Bon, l'idée, c'est pas de lire des versets dans tous les sens, c'est de regrouper et de voir qu'est-ce qu'il y a comme idée dans la Bible, comme idée générale sur les souvenirs. Dans Jean 8, verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous voyez le rapport avec ce que j'ai dit avant, hein? C'est bien, ça suit. Tout à l'heure, j'avais des. Là, j'y. Ça me rassure. Quand Jésus il parle de ceux qui sont esclaves du péché, il y a aussi de ceux qui sont esclaves de la loi aux pharisiens, il leur dit plus ou moins ça, hein. Vous êtes complètement esclaves de votre loi et vous savez que vous ne resterez pas devant Dieu, en fait, au bout d'un moment il va vous rejeter. Et il n'y a que ceux qui sont libérés directement par Dieu, qui peuvent s'approcher et rester chez lui. Le Fils, il demeure toujours. Dans Galates 4, verset 6, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es si héritier par la grâce de Dieu. » C'est pour ça que c'est important d'être libéré. Hein. Là, on a focalisé sur le fait de connaître Dieu, parce que c'est l'unique but de notre vie, en fait. C'est, tout dépend de ça. Mais derrière, il y a un tas de choses qui en découlent de ça, de cette liberté. Et ce que nous dit là Galates, c'est que si on est libre, alors on peut rester dans la présence de Dieu. Et si on peut rester dans sa présence, alors on hérite de toutes ses promesses, on en bénéficie. Et c'est toute l'histoire du fils prodigue, en fait. En partant, il s'est coupé de toutes les bénédictions du Père. Et quand il revient, Dieu lui dit, mais tu reviens chez moi, tu restes, et puis maintenant tu peux retrouver tout ce que tu as perdu. Mais celui qui est encore esclave, il n'a pas le droit de rester là, en fait. C'est pour un temps et il ne bénéficie pas de l'héritage. L'esclave, il bénéficie de pas grand-chose, en fait. Hein. Toujours Galates. Quand on parle de liberté, on peut penser à Galates parce que c'est presque l'inverse. Hein. C'est l'absence de liberté chez les Galates. Que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Si ça résume bien ce qu'on a dit, hein, c'est que si on... Quand il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est bien parce qu'il y a un risque, s'il nous le dit. Et faites attention, vous pouvez très vite retomber dans des lois, dans des rites, des choses qui vont vous éloigner de Dieu et vous n'aurez plus besoin de Christ, en fait, si vous observez tout ça. Alors, notre part du travail, elle n'est pas compliquée dans tout ça, hein, si vous m'avez suivi depuis le début. Et vous m'avez suivi. Je vois encore des oui, donc ça va. Allez juste de demander à Dieu d'enlever le voile du cœur des gens qui ne le connaissent pas encore. Et nous, de rester le plus près possible de lui, en fait. De ne pas remettre un voile, de ne pas remettre quelque chose qui va nous bloquer la communion avec lui. C'est finalement la seule chose qu'on ait besoin de demander. Et tout le reste, ça va découler de là, en fait. Si on reste dans sa présence, on n'a rien besoin d'autre. On n'a absolument rien besoin d'autre. Donc c'est pas compliqué l'évangile, hein, d'une certaine façon. Nous, on complique, on y rajoute des règles, des choses compliquées à suivre et qui finalement nous amènent loin de l'évangile. Mais le plus important, c'est de le voir tel qu'il est. Et immanquablement, si on est devant lui et qu'on est dans sa présence, alors on peut que l'adorer. En fait, on n'a pas d'autre, on n'a rien d'autre à faire. Alors, ça veut dire qu'il faut vous attendre à briller. Si vous restez dans la présence de Dieu, c'était ça Moïse en fait. Hein, c'est que tellement bénéficier de la présence de Dieu qu'il brillait devant tout le monde. Et c'est ce qu'on nous dit dans la Bible. Hein, vous brillerez comme des flambeaux dans le monde. Alors, ça veut pas forcément dire qu'on doit briller avec nos visages, hein, mais il y a de ça quand même. Il y a des moments où on est tellement rayonnant que les gens, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui encore? parce que ça se voit, ça doit se voir. Si on est heureux d'être libre dans le Seigneur, alors ça se voit forcément. Je m'arrêtais avec le dernier verset de 2 Corinthiens 3. Je vous ai embêté beaucoup avec celui juste avant. Je termine avec celui-là. Le verset 17, c'était, je vous le rappelle quand même, hein, c'est sur ça qu'on a parlé depuis tout à l'heure. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est une belle promesse. Hein. C'est à force de rester devant lui, surtout sans mettre de voile, alors on va refléter sa gloire pour les autres. Et alors, on sera transformé de plus en plus à sa gloire et par son esprit. Alors je vais prier. Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes, qui est plus que ce que l'humain peut imaginer, de liberté charnelle, de liberté qui finalement mène au péché, mène à la mort. Seigneur, la liberté de s'approcher de toi. Seigneur, merci pour le prix que tu as payé pour cette liberté. Seigneur, merci parce que nous n'avons rien besoin d'autre. Seigneur, juste de venir à toi librement, de pouvoir t'adorer, te contempler et Seigneur, recevoir de toi tout ce que tu as nous donné. Seigneur, il y a des tas de promesses dans la Bible, mais tout tient à partir de ça. Je suis reconnaissant, Seigneur, de ce que c'est toi qui fais les choses, c'est toi qui ôtes le voile. Seigneur, nous, on est juste là pour te demander de le faire pour nos propres vies et pour les vies des autres, Seigneur. Seigneur, je pense à Florence en particulier. Je te prie vraiment d'ôter ce voile, qu'elle puisse te contempler, qu'elle puisse te voir et qu'elle en soit transformée, Seigneur. Amen.